On est un peu en retard, chère Marie. J'en suis Marie. Excuse-moi, ça me vient. C'est aussi bête que qu'un mercredi soir à cette heure-ci. Troisième et dernier volet de nos aventures, parce que le dossier était conséquent, de nos aventures autour des expositions de Hard Rock. On a évoqué Andy Warhol, on a évoqué plein d'artistes majeurs. Je suis tout oui, nous sommes tout oui pour évoquer ces années 90-2000.
Mais oui, merci Marcus pour cette introduction.
Oui, c'était pas la meilleure de l'année, mais en tout cas, elle existe. Du coup, vers où allons-nous? Je vois que tu as ramené un beau programme là sous. Ouais, je me rappelle de celle-là d'affiche.
Oui, on va pas commencer par celle-là parce que c'est 2008. Déjà 2008.
Déjà.
Là, on aborde les années 2000 et en faisant ce travail rétrospectif. Je m'aperçois à quel point on a vraiment accueilli des artistes qui grattaient, qui questionnaient, qui dérangeaient, et pas seulement leur art, souvent d'ailleurs c'est le cas, qui questionnaient le monde de l'art contemporain, mais aussi tout simplement la société. Enfin, je veux dire, quelque part, ils sont des philosophes. Enfin, c'est assez impressionnant, et c'est plus que jamais vrai avec ces années 2000. Je pense à quelqu'un comme Pierrick Saurin qu'on a reçu en 2000 d'ailleurs précisément.
Ah oui.
Qui est ce personnage originaire de Nantes, qui est un artiste vidéo, et qui, justement pour dénoncer tout l'absurde de cette société, passe par le biais de la dérision, de l'humour. Il s'est créé un personnage clownesque, mi-tragico-comique, mais il est plutôt pessimiste, lui, dans sa vision de la société, et pour questionner plutôt, parce qu'il n'est pas militant, enfin, à sa façon, c'est un artiste. Et ben, il a créé ce personnage et il se met en scène lui-même dans des petits films au titre complètement incroyable. Pierrick coupe du bois, 143 positions érotiques, enfin, etc. Et il a un petit côté Méliès, un peu Tati, un peu tous ces gens du cinéma pour l'aspect burlesque de ce qu'il fait. Et nous, on a présenté donc plusieurs de ses courts-métrages. Oui, on peut parler de courts-métrages ou de clips, si vous voulez. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'effectivement, le public rit, sourit, parce qu'il fait rire, Pierrick Saurin. Mais on est quand même dérangé quelque part.
Mais il y avait du trouble.
Je pense par exemple aux 143 positions érotiques. On est bien loin, vous imaginez bien, d'un film pornographique. Il se met donc une fois encore lui-même en scène sur un lit recouvert de fourrure. Et qui est son partenaire? C'est un polochon. Et il invente, alors je ne sais pas si on avait exactement 143, peu importe. Il invente des soi-disant positions érotiques qui n'en sont pas vraiment. Mais on rit un peu jaune ou noir, je ne sais plus quelle couleur. On se sent interpellé quand même par rapport à ce qu'il fait. Une autre vidéo dont je me souviens, pendant 2 mois, il s'est autofilmé à son réveil, dans son lit. Et à chaque fois, il avait cette phrase, il disait « Je me suis couché tard, demain je me coucherai plus tôt ». Il fait ça de façon récurrente, comme ça, pendant 2 mois. Et il monte son film. Et franchement, ça dérange.
Ah oui, ça dérange. Parce qu'il y a
ça
aussi.
Ça dérange notre quotidien.
Il y a aussi cette solitude, hein, Marie, qui est quand même une plaie de nos mondes modernes, de nos sociétés modernes, et particulièrement des sociétés urbaines, pas que, mais aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce travail de Pierrick Saurin, c'est ça aussi. C'est cette mise en scène de la solitude à travers son autoportrait. Comme tu dis, il y a énormément d'humour. Mais ça fait aussi vraiment frissonner, quoi.
Ah bah oui, il y a des choses de dites, comme on dit. Mais dans la vie, dans la vraie vie, j'allais dire, enfin. La personne est cordiale et souriant, enfin je veux dire, c'est pas quelqu'un de flippé. Et Jean-Michel lui a fait un très joli cadeau d'ailleurs au passage, parce qu'il est venu l'année où on recevait Moby.
Ah oui.
La même année d'ailleurs, il y avait également Jean-Luc Courcou et sa compagnie Royal de Luxe, et Jean-Michel Bonnet donc, a eu cette idée de carrément leur installer des chaises dans la fosse des photographes. On était à Robien, et comme Pierrick était accompagné de sa femme, enfin sa compagne, et ils ont kiffé comme des fous ce concert, complètement christique en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez de Moby, dans des places privilégiées. Ils étaient heureux comme des papes Jean-Michel était avec eux, tous les quatre. Et c'est un petit clin d'œil comme ça. Pierrick Saurin, qui, pour vous dire, est quand même un bon vivant dans la vie.
Oui, je me doute. Bon, de toute façon, pour avoir un taux d'autodérision, pour réussir justement à se mettre en scène soi-même, il faut avoir un peu d'humour, un minimum, sinon on n'y arrive plus.
Oui, exactement.
Il est venu qu'une fois, ou il est venu plusieurs fois, Pierrick Saurin?
On avait montré déjà ses travaux, mais sans sa présence, quelques années précédentes. Je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire. Parce que lui, il travaille depuis les années 80.
Oui, c'est ça.
Il doit avoir Quel âge il peut avoir maintenant ? La fourchette 55-60 dans ces eaux-là, quoi.
Et précurseur aussi quand même de l'art de la vidéo, hein, parce que il n'y avait pas grand monde qui faisait ce genre de choses à ce moment-là.
Exactement. C'est pour ça que j'aime bien aller le chercher dans la lignée de Méliès pour le côté animation, pour le côté aussi burlesque.
Bricolage.
Tati pour le côté clownesque, etc. Mmh. Et il était précurseur, oui, complètement. En France, oui, oui. L'art vidéo préexistait aux États-Unis ou dans les pays, je pense à Nam June Paik ou à des gens comme ça, bien évidemment, dès les années 60. Mais c'est vrai qu'en France, dans les années 80, ils n'étaient pas si nombreux que ça, les vidéastes artistes.
C'était beaucoup des choses plutôt abstraites, quoi. C'était ou plutôt des impressions, comme ça, des effets d'image,
oui.
Voilà, conceptuels.
Oui.
Est-ce que lui, en plus, il se mettait en scène. Donc il y avait ce côté réaliste qui faisait aussi du bien, finalement, à l'époque.
On est au théâtre avec lui.
Voilà, c'est exactement ça.
Voilà. La même année, on a fait une expo de photos d'un grand photographe britannique qui s'appelle Chris Nash, qui avait eu la possibilité de photographier en gros toutes les grosses compagnies de danse anglaise. Et donc, on a exposé toutes ces expos. C'était sa première expo en France, d'ailleurs. Et l'année d'après, on a reçu un autre qui manque pas d'humour, mais alors vraiment, c'est Joël Hubeau. Mmh. Alors lui, d'où il est, lui, du sud de la France, là. Et il nous a fait des clom parties. Clom, ça veut dire contre l'ordre moral. Donc déjà, la chose est dite.
Ça vous plaît, forcément.
D'ailleurs, quand on lui pose la question de quel est votre métier, il répond grossiste en art. Voilà, vous avez tout compris aussi. Plus concrètement, il fait ce qu'on appelle des expos monochromes. Il choisit une couleur. S'agissant d'art rock, donc en 2001, il avait choisi le rose. Et donc, quelques semaines...
Ah, pour que ça soit à la mode, hein. Je précise, parce que c'est revenu beaucoup à la mode,
attention,
le rose.
Attention, on est en 2001.
C'est ça, à l'époque, c'était très pas du tout à la mode.
Et donc, en amont du festival, un mois avant, eh ben, on a appelé la participation du public en leur demandant de venir déposer des objets roses, des vêtements roses, enfin tout ce qui était rose dans l'environnement, et qu'ils avaient envie de participer comme ça à l'installation de Joël Hubeau, parce qu'il s'est surtout fait connaître pour ses installations, Joël Hubeau, même s'il avait d'autres types d'expressions. Et donc le public a super joué le jeu. On s'est retrouvé avec des centaines et des centaines de bouées, de maillots de bain, de je ne sais plus quoi. Il y avait des poupées, il y avait je me rappelle une lunette de WC rose, par exemple, des seaux de plage, plein d'objets hétéroclites et divers qui étaient comme ça entreposés à la passerelle. Et donc Joël Hubeau s'en est saisi et a fait toute une mise en scène rose, bien évidemment, pour nous créer donc la clom party rose. Était visitable et on s'aperçoit à quel point ces objets donc usuels, banals, hétéroclites, tout simplement parce qu'ils sont réunis par une unique couleur, créent de l'art, créent une œuvre. Enfin, il y avait bien évidemment la patte de Joël Hubeau, il n'installait pas de façon comme ça complètement au hasard. Et c'est pareil, ça nous interroge aussi sur l'absurde de cet empilement d'objets. Il nous questionne aussi à travers ce qu'il fait, énormément d'humour.
L'école des néo-réalistes, un petit peu, quoi, pour le coup. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est ce que tu suggérais, Marie, c'est-à-dire que là encore, c'est quelque chose que vous aimez bien, un rock, hein, depuis le départ, c'est faire participer le public, c'est la contribution du public, et là, pour le coup...
Exactement. Mais c'était un pari, parce qu'on ne savait pas si les gens allaient jouer le jeu, et puis il fallait super communiquer. À une époque où il n'y avait pas tant que ça de réseaux sociaux, etc. Et on a eu, à notre grande surprise, plein, plein, plein d'objets, oui, et ça a été réussi.
Ouais, c'est un challenge de trouver des objets en rose.
Si ça surtout, et tu avais raison de le rappeler, Marcus, à une époque où ce n'était pas très à la mode. Quoi.
Non, c'était très connoté. En tout cas, ouais, il y a eu aussi donc cet artiste, ça, c'était en 2008, c'est ça ?
Non, 2001.
2001, oh là là, je suis trop
jeune. Jean-Michel Boinet a profité de la présence de Joël Hubeau pour lui demander un clom partie noire.
Ah oui.
Et là, ça a été l'équipe d'Art Rock, plus plein de bénévoles, on était une cinquantaine. On s'est réunis tous, l'idée était aussi cette idée d'apporter du noir, alors soit on s'habille en noir, soit on apportait un masque noir, un plumeau noir, enfin le dressing code en tous les cas était noir. Et on a fait, Joël Hubeau a fait une mise en scène de toute cette équipe, avec des drapés noirs, enfin vous imaginez. Et il en a fait des clichés, et ce cliché est devenu la carte de la bonne année d'Art Rock pour cette année-là. Ou l'année d'après, plutôt, 2002.
Oui. Voilà. Mais c'est bien.
Mais ça aussi, c'était sympa. C'est pas seulement sympa, c'est cette volonté, comme tu dis très justement, Marcus, d'associer les gens, d'associer l'équipe, et que les gens jouent le jeu, et ça c'était important aussi. Oui.
Puis d'inscrire dans le temps finalement, parce que cette œuvre a été présentée plutôt au printemps, et puis elle a servi de support à la carte de bonne année, c'était en plein hiver, ça voulait dire aussi, on se rappelle quoi.
Eh oui, exactement. On l'a fait de temps en temps, ça.
Ouais. À une époque, on envoyait des cartes postales.
Mais lui, de toute façon, il disait qu'il est un peste moderne. C'est pour vous dire tout le... la considération qu'il avait par rapport au monde de l'art contemporain. Oui. J'aurais été curieuse d'assister, d'ailleurs j'ai appris qu'il faisait des cours d'art plastique, j'aurais adoré aller à ses cours.
Mais pas de mal, effectivement.
L'année d'après, donc on est en 2003, on invite une indienne, une artiste indienne qui s'appelle Rambin Kaur. Là on est à la frontière entre les arts de la rue et les arts plastiques. C'est une plasticienne, donc indienne, je viens de le dire, qui crée des sortes de mandalas. Et donc, elle avait été invitée à en faire deux, un place de la Résistance et un autre derrière la console de Poulain Corbion. Elle utilise des grains de sable, des perles, des pétales de fleurs, des sures de bois de différentes couleurs. Et pendant toute la durée du festival, on pouvait admirer son geste, on pouvait aller la voir, créer ces gigantesques mandalas, comme ça, à même le sol. Et là, il y avait effectivement... une sorte de participation du public qui était interpellée par son geste, par ce qu'elle voulait dire, parce que vous savez que les mandalas ont toute une signification, on va dire, religieuse certes, mais aussi philosophique.
Bien sûr.
Et donc, elle dialoguait avec le public qui venait la voir actée, comme ça.
C'était presque de l'art brut, là, pour le coup.
Ça l'est, oui.
C'est ça.
Mais c'était pas simple à mettre en place. Hein. Il y avait considération du vent, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il a fallu qu'on trouve des endroits appropriés, bien plats. Enfin, ça n'a pas été évident. On a fait plusieurs tentatives. Et ça a été une super belle réussite, oui, vraiment.
Oui. Magnifique.
On enchaîne avec 2004.
Allons-y.
Alors là, on passe à la photo avec un grand photographe de l'agence Vue qui s'appelle Michael Ackermann. Je crois que ça fait plusieurs fois que je cite l'agence Vue. Vous avez compris que sont un peu devenus des amis, sont des gens, enfin Christian Cojol et Jules Cruyff qui ont tout de suite adhéré au projet Arock. Et donc, on le verra plus tard. On a même fait une carte blanche avec eux. Mais là, en l'occurrence, c'était une exposition d'un photographe qui est très important, qui était très important au sein de l'agence Vue. C'est un Américain qui est né à Tel Aviv et il nous a présenté un diaporama qui durait à peu près 30 minutes avec une BO d'enfer, Cat Power, Leonard Cohen. Etc, etc. Et on se calait comme ça dans le fauteuil et on avait une succession. Il fait à la fois des photos urbaines, d'immeubles, enfin de bâtiments, etc., mais aussi des visages, des personnages. Il a cette spécialité, j'allais dire, de... On n'est pas dans le flou, on n'est pas dans le bouger, on est dans quelque chose, je ne sais pas trop comment l'appeler, on est dans un monde un peu vibratile, un peu hallucinatoire, les contours sont pas nets, c'est un peu la touche, le touch de Michael Ackermann, qui est un grand, grand, grand photographe, et que je vous recommande si vous avez l'occasion de voir ses œuvres, parce que c'est vraiment magnifique ce qu'il fait.
Donc là aussi, avec un souci, mais c'est important hein, de rappeler tout ça, parce que on vient d'évoquer effectivement l'art brut, on vient d'évoquer la photo, l'art vidéo, l'accumulation un peu dans l'esprit néo-réaliste, etc. Ça veut dire que chaque année, finalement, il y avait aussi un artiste, mais aussi une forme d'art qui était présentée, qui est toujours, parce que on parle au passé, mais c'est bien vivace, hein, ouais. Fort heureusement.
Oui, et puis en parallèle de toutes ces expositions, on aura l'occasion d'en reparler lors de futures chroniques, peut-être, il y a les arts numériques, comment
bien
ça...
Sûr.
Faire leur apparition. Bon, on en reparlera ultérieurement, si vous voulez bien. La même année, donc, on a vu Geneviève Gauclair qui avait réalisé la superbe affiche d'Art Rock 2004. On l'invite à exposer. C'est une artiste parisienne qui présente des personnages un peu hybrides, mi-hommes, mi-animaux, qui peuvent faire peur parfois, mais qui sont très, très, très colorés. Et puis elle les met en scène, elle aussi, dans des situations absurdes, cocasses, on ne sait pas bien où on est. On hallucine un peu.
Entre le douanier Rousseau et autre chose, d'ailleurs.
Parce que on est quand même loin du douanier Rousseau.
Je pense aux couleurs, parce qu'il y avait ce côté un petit peu faussement naïf, justement, c'est pour ça que j'évoque.
C'est faussement naïf, oui, voilà. Ça peut même faire peur parfois, il y a des monstres, elle crée des monstres assez inquiétants.
Entre le douanier Rousseau et Alice Cooper qui est venue à Rock, voilà.
Waouh. Bel enchaînement. Alors on continue, on arrive en 2005 avec Ikon Tada, qui est lui un artiste japonais, qui ne s'est pas déplacé au festival, il n'était pas disponible, mais il a réalisé un superbe visuel pour le festival. À l'origine, il est dessineur de manga, très original pour un japonais.
Pour un japonais, effectivement.
Mais il est aussi VJ, vidéo jockey, et il crée des peintures numériques. C'est-à-dire que quand on les voit, ces formes sphériques qui dégoulinent, etc., on peut avoir l'impression justement que ce sont des peintures, et pas du tout, c'est une opération très mathématique, très calculée de sa part, et c'est du numérique. Et il avait cette particularité de monter ses œuvres sur de l'aluminium.
D'accord.
Et donc on a eu toute une grosse expo de... Donc il y avait le visuel bien sûr du festival, mais on a eu toute une grosse exposition des œuvres d'Ikon Tada. Voilà.
Et c'est aussi un tour du monde des arts quand même, parce que on va à Tel Aviv, on va au Japon, on va aux États-Unis, on va en France, dans le sud de la France, on va à Paris aussi. Ouais, il y a aussi, on le dit régulièrement Marie, mais c'est vraiment un festival tourné vers le monde, et le monde vient à Saint-Brieuc, mais pour le coup, à travers ces expositions, c'est peut-être là encore plus vrai quoi qu'avec la musique finalement.
Oh, les deux, on a reçu, je pense en danse, on a reçu Dom Type du Japon aussi, tiens, j'y pensais. Non, on reçoit aussi l'international dans d'autres domaines. Mais c'est vrai qu'en art plastique, il y a eu pas mal de gens du monde entier, comme tu dis très justement.
Mais ça, c'est aussi. C'est pas des artistes que vous avez trouvés dans une rue comme ça qui erraient. Ça aurait pu, après tout.
Oui, mais par exemple, je pense à Pierrick Saurin, qui maintenant est un petit peu connu du grand public. Il était totalement inconnu hein, à l'époque. D'accord. Où on l'a fait venir. Hein. Il y avait une proximité de Nantes. Oui, c'est à Nantes d'ailleurs qu'on a découvert son travail. Mais il n'était pas connu à l'époque. Maintenant, on connaît un peu le nom Pierrick Saurin. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'art vidéo.
Bien sûr.
On enchaîne donc en 2006 avec. Alors là, c'est un fou de collection, un mec qui s'appelle Didier Meffredi, qui collectionne toutes les affiches. Enfin, c'est le plus grand collectionneur d'affiches de concerts de rock en France, en tous les cas. Très axé musique américaine quand même. Et son expo s'appelait tout simplement L'Art du Rock. Donc vous imaginez bien que ça nous a parlé quand on a vu ce titre.
Oui, forcément.
Et d'ailleurs, ça a donné lieu à un super beau livre très luxueux que je vous recommande, qui s'appelle Rock Poster Art, où là vous vous régalez vraiment pour voir toute l'histoire des affiches des concerts de rock.
Qui font partie hein, de l'ADN finalement, de ce qu'on appelle aujourd'hui musique actuelle, mais enfin ça a toujours fait partie. Il y a vraiment hein, des collectionneurs et tout, il suffit d'aller suivre certains comptes Twitter ou Insta ou je sais pas quoi, et vous allez voir que les affiches, l'affichisme entre guillemets, ça existe depuis le départ, ça c'était bien d'avoir ce genre de choses.
On parlait lors de la dernière chronique de l'importance des visuels, notamment sur les pochettes de disques, etc. C'est un petit peu perdu avec le monde du CD, on a plus cette notion de belle objet et de quoi qu'il y a des efforts de fait maintenant sur des coffrets, des disques,
oui, qui du packaging,
etc. Du packaging, voilà. Le mot me manquait.
Magnifique mot.
Et puis il y a le retour du vinyle quand même, dont on se réjouit d'ailleurs, ne serait-ce que pour ça, ces notions de bel objet. Mais c'est vrai qu'à rock, il a toujours attaché beaucoup d'importance au visuel et à l'esthétique. L'art dans le rock, ben voilà, c'est ça, tout est résumé avec ce titre.
Effectivement, l'art dans le rock, et ça allait bien, forcément bien avec un rock.
En 2008, on reçoit une grande dame qui s'appelle Agnès B.
Ah, oui. Et donc, un peu connue, elle aussi.
Et qui est une grande dame pour différentes raisons, c'est-à-dire certes ses vêtements, certes on la connaît d'abord et avant tout comme ça, comme créatrice de mode, mais c'est quelqu'un qui s'investit énormément, autant dans le social que dans l'art et la culture, puisqu'elle a même créé sa propre fondation. Elle a sa propre galerie à Paris, la galerie Agnès B., et le directeur d'ailleurs de la fondation, qui s'appelle Jean-François Sens, a eu l'idée de créer une exposition sur les jeunes gens modernes. Et donc il s'est intéressé, mais figurez-vous qu'il a eu cette idée qui lui a été un peu soufflée par un gars du coin qui s'appelle Gilles Le Guen, qui est originaire de Trébeurden et qu'il a rencontré en rentrant de New York, je crois, Gilles. Gilles habitait à New York, il rentre et il a rencontré Jean-François Sens et ils se sont très bien entendus tous les deux. Gilles est un peu quand même un spécialiste de ces musiques des années 80, enfin spécialiste au sens lui aussi collectionneur, historique et surtout grand amateur. Et à eux deux, et avec donc le soutien de la fondation Agnès B, ils ont créé une super belle expo vraiment qui revenait sur ces années, c'est un peu précis, c'est de 78 à 83. Donc c'est quoi? C'est la post-wave, c'est ce qu'on appelait la culture nouveau.
La culture nouveau, ouais.
C'est Étienne Dao, c'est Taxi Girl, c'est Sticky Boy, ce sont des gens comme ça. Et donc il y avait, là encore, des pochettes de disques, bien évidemment, des vêtements, des livrets, plein d'objets.
Du rouge et du noir. Et... Il y avait du rouge et du noir, ça je m'en souviens très bien par contre.
Ah oui, tu l'avais vu?
Ah oui, elle était en plein centre comme ça du village de Haro, qui avait une immense, des jeunes gens modernes, voilà, il y avait une immense affiche du livre qui existe toujours, qui est disponible, je crois toujours.
Oui, oui, enfin j'espère,
oui,
pour
je pense.
Les amateurs.
Oh,
oui,
ça se trouve.
C'est un très très beau livre, ouais, aussi. C'est intéressant d'ailleurs que les expositions... donne suite comme ça à l'édition de ce qu'on appelle des beaux livres.
Bien sûr, bien
voilà.
Sûr.
Et en parallèle et surtout, en 2008, c'était la carte blanche Agnès B. C'est-à-dire qu'on est allé au-delà de cette... C'est parti quand même de l'idée de l'exposition après, et puis en discutant avec Jean-François Sens, Jean-Michel Boinet s'est aperçu grande connaissance et la passion que Jean-François Sens avait pour toutes ses musiques, et Agnès B. elle-même personnellement d'ailleurs, et elle soutient d'ailleurs des musiciens. Elle peut aller jusqu'à les, enfin, elle peut aller, je veux dire, les soutient aussi financièrement. Elle est personnellement très impliquée. Elle est venue d'ailleurs au Festival à Rock. Et donc, avec eux, ben, on a eu Daniel Darc, on a eu, je me souviens plus, tiens, de.
Il n'y avait pas Daron et les Chaises aussi, ou des gens comme ça.
Pardon ?
Je crois qu'il y avait, il y a une de mémoire, les Chaises, quand c'était Daron et les Chaises, je ne sais plus, je cite un peu de mémoire, enfin, c'est pas bien grave.
Il y a eu James Chance.
James Chance, oui, voilà.
Voilà, des gens comme ça. Et l'ensemble de la programmation, donc, était co-réalisée par la Fondation Agnès B. Et le Festival à Rock, en très grande complicité, Jean-François Sens étant un type absolument adorable. Et Agnès B. nous a fait l'honneur et le plaisir de se déplacer à Saint-Brieuc, une personne très réservée, très humble. Mais franchement, elle se baladait au forum pendant les concerts, je la voyais dans le public, personne ne l'abordait, ne la dérangeait. Et moi, quand j'allais discuter avec elle, j'avoue que j'avais quelqu'un de pas extraverti, plutôt humble, plutôt timide.
Pour l'anecdote, tu sais qu'elle habite, on va être obligé de s'arrêter après parce que notre ami Guirec derrière trépine d'impatience pour ce track. Mais et on poursuivra, je te rassure, chère Marie, c'est une discussion, mais juste je voulais finir parce que ça me revient. Elle habite un village, je crois que c'est dans l'Eure, ou enfin pas très très loin de Paris, mais plutôt dans un village plutôt rural, on va le dire comme ça, et qui a une cave monumentale parce qu'il y a tous les amis d'Agnès B qui viennent voir d'Agnès B, et ils sont très amateurs de bons vins. Donc si tu veux avoir des bons vins. J'aimerais bien, mais il y a eu un reportage, j'avais vu un petit reportage. Et effectivement, donc elle va dans l'épicier. Ça rejoint aussi, si je te parle de ça, ça rejoint ce côté, comment dire, accessible d'Agnès B. Elle va chez l'épicier, et donc forcément, elle ne pourra pas prendre du picrate, hein, mais ça veut dire que voilà, elle a aussi sponsorisé l'épicier du village à travers ça. Voilà.
Mais moi, je l'ai vu déambuler dans les rues de Saint-Brieuc, aller prendre un verre dans un bar, etc. C'était drôle. Enfin, c'était drôle, c'était. C'est impressionnant, c'est touchant de voir ces stars-là qui vont voir les gens de la ville dans laquelle ils sont. C'est bien.
Et c'est le Festival à Rock
agréable.
Aussi, et c'est pour ça qu'on adore en parler une semaine sur deux. Merci Marie, je suis désolé, la chronique est un petit peu écourtée ce soir, mais on continuera ces discussions bien évidemment dans les semaines à venir.